Deuxième temps donc de notre semaine spéciale de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'imaginaire historique de nos politiques. Qu'ont-ils et qu'ont-elles dans la tête quand ils ou elles parlent du passé? Que doivent-ils à l'histoire? C'est la question que nous avions posée en 2007 à certains candidats à la présidentielle. Pour cette nouvelle série, nous avons choisi d'élargir à certaines personnalités politiques qui n'ont pas voulu concourir à la présidentielle, du moins pas encore. C'était le cas hier pour Jean-François Copé, ce sera le cas demain pour Daniel Cohn-Bendit. En revanche, aujourd'hui, nous diffusons l'entretien que nous a accordé à l'automne dernier le candidat du Parti Socialiste à la présidentielle, François Hollande. Il nous a parlé de la toile de fond historique sur laquelle il inscrit son action, des grands hommes qu'il évoque fréquemment, Henri IV et Condorcet, Victor Hugo et Léon Blum, François Mitterrand ou encore Salvador Allende. Un panthéon somme toute assez classique pour un homme de gauche, mais dans lequel on peut trouver quelques particularités, des particularités qui sont propres à son histoire, l'histoire de François Hollande, mais également à celle de sa famille. On va le voir dans un instant. Petit résumé des épisodes précédents, ce projet que nous portons à la Fabrique de l'Histoire depuis maintenant 5 ans est de réfléchir à la façon dont un homme ou une femme politique aujourd'hui agit en fonction de la vision qu'il a de son passé de son pays, du passé du monde même, et dont il se sert dans ce grand magasin des accessoires du passé, de telle ou telle référence historique pour pouvoir justifier son action quotidienne. Alors nous avions fait cela donc en 2007 avec certains hommes politiques comme Arlette Laguiller, comme José Bové, comme Jean-Marie Le Pen, que vous pourrez réentendre demain, comme Nicolas Dupont-Aignan, que nous passerons en partie, donc pour une partie de cet entretien jeudi. Et puis, nous avons renouvelé l'exercice avec d'autres personnalités plus proches de nous aujourd'hui, comme Jean-François Copé, François Hollande aujourd'hui, et puis Jean-Luc Mélenchon et Daniel Cohn-Bendit, que nous diffuserons également demain. Alors, les règles du CSA nous obligent, vous le savez, à ne pas diffuser sur la même longueur tous ces entretiens, puisque certains d'entre eux correspondent donc au poids politique supposé des partis qui les poussent. Donc vous avez pu entendre Jean-François Copé hier sur une quarantaine de minutes. Vous allez pouvoir entendre également François Hollande sur cette même durée aujourd'hui. Demain, eh bien, vous entendrez Daniel Cohn-Bendit ou encore Jean-Luc Mélenchon que sur un peu plus de 10 minutes, ainsi que Jean-Marie Le Pen. Alors évidemment, ces entretiens sont plus longs. Nous en diffuserons certains extraits ou la totalité de ces entretiens sur le site internet de France Culture à partir de demain pour que vous puissiez avoir la totalité de ce que nous ont dit ces hommes politiques, totalité que vous allez également retrouver dans le livre qui paraît jeudi, publié chez Bayard, avec une préface de l'historien Christophe Prochasson qui s'intitule « Que doivent-ils à l'histoire ?» Alors, Jean-François Copé, hier, nous racontait combien il avait été marqué par la Première Guerre mondiale. Il est maire de Meaux, il a ouvert un musée de la Première Guerre mondiale. Eh bien, nous allons voir aujourd'hui que c'est également le cas de François Hollande. Il parlait également de l'émotion nécessaire pour pouvoir comprendre l'histoire. Et vous allez voir également que François Hollande, dans sa vision de l'histoire, fait une certaine place à cette émotion, même s'il le pense en tant que personnalité qui brigue donc un poste de chef de l'État, qu'il faut aussi mettre cette émotion à distance à certains moments. Nous écoutons donc François Hollande sur sa vision de l'histoire. C'est tout de suite dans la Fabrique de l'Histoire.
Comment vous êtes-vous forgé votre paysage historique personnel, François Hollande? On apprend l'histoire à la fois à l'école, c'est évident. Je crois que vous avez fréquenté l'école privée, disait-on à l'époque, puis les lycées de la République, puis les grandes écoles de la République, mais aussi par les récits qui vous sont transmis à l'intérieur des familles. Est-ce que il y avait contradiction entre les récits familiaux et ce que vous appreniez à l'école? Est-ce qu'il y avait, disons, des grandes figures ou des grands moments qui vous ont été transmis et qui se complétaient comme dans une sorte de puzzle de ce qu'était cette histoire de notre pays, François Hollande?
Les récits familiaux étaient des récits de guerre. Mes grands-pères, les deux, maternels et paternels, avaient fait la Première Guerre mondiale.
Et pour certains, avaient tout perdu.
Avaient tout perdu et avaient été blessés l'un et l'autre. L'un gazé, l'autre blessé par un éclat d'obus. Et donc je leur faisais raconter leur guerre. Et à chaque récit, j'apprenais des choses nouvelles à mesure que moi-même, je pouvais améliorer mon niveau de connaissance de ce qu'avait été cette tragédie. Je faisais parler mon père de ce qu'il avait vécu durant la Seconde Guerre mondiale. Ma mère aussi, d'ailleurs. Mes grands-parents également, même s'ils n'étaient plus combattants à ce moment-là, ils avaient vécu la Seconde Guerre mondiale, à la fois l'occupation et la libération. Et de mon père aussi, j'ai appris ce que pouvaient être les sentiments, voire même les ressentiments, par rapport à une autre guerre, qui était la guerre d'Algérie.
Mmh. Donc, parce que votre père était plutôt proche de Tixier, Vignancourt.
Enfin, il était pour l'Algérie française. Donc, ce que j'avais dans ma famille, c'était des récits de guerre, ce qui d'ailleurs m'était utile pour comprendre ce qui avait pu conduire nations à se battre au point de se détruire durant la Première Guerre mondiale. Des duretés qui avaient été celles engendrées par ces guerres pour des soldats qui sont morts en grand nombre au champ de bataille. Ma grand-mère avait perdu son frère. Les deux frères de mon grand-père avaient été également mobilisés, blessés. Je disais mon grand-père gazé. Donc, je voyais ce qu'était l'horreur de la guerre.
Vous avez encore de ces images, justement, oui. du jeune garçon qui apprend de ses grands-parents ce qu'a été la Première Guerre mondiale.
Qui apprend l'effroi, qui apprend l'horreur et des conditions de vie que je ne pouvais même pas concevoir.
Oui, parce
et
en même temps, notre famille était dans cette zone très peu connue,
oui, du Pas-de-Calais.
La zone du Pas-de-Calais, c'est-à-dire un endroit qui a été entièrement détruit, qui a été occupé bien avant l'occupation de la Seconde Guerre mondiale, donc qui a été occupé pendant la Première Guerre mondiale par les forces allemandes.
Oui,
il détruit.
Mes arrière-grands-parents étaient paysans et donc avaient tout perdu, avaient été donc déplacés c'était vraiment dans ces récits le souvenir de la désolation. Mais j'avais affaire à des survivants. Toute ma famille, par définition, puisque j'étais là, c'était des survivants. Et les survivants m'apprenaient quelque chose, m'apprenaient la confiance dans la vie. M'apprenait la résistance, la ténacité. Donc je suis issu de cette famille, comme beaucoup de Français, de survivants des guerres. Mais j'ai voulu construire aussi mon propre imaginaire historique. Donc je ne suis pas allé chercher dans les temps de guerre, je suis allé chercher dans les temps de paix, ce qui pouvait être des éléments de construction de notre nation, de notre fierté. Et si je suis allé vers la gauche, c'est parce que il me paraissait que ce mouvement s'inscrivait dans non pas une tradition pacifiste seulement, mais dans l'affirmation du progrès, dans la conquête des droits, dans la revendication de liberté nouvelle. Et je me suis beaucoup intéressé à la construction notamment de la Troisième République.
C'est-à-dire ce moment un peu indécis,
ouais,
du début de la Troisième République, où on ne sait pas très bien
de quel côté ça va tomber. Et de ces hommes, parce que c'était essentiellement des hommes, qui se battaient pour des libertés qui nous paraissent aujourd'hui d'évidence. Et
liberté d'expression, pourtant, liberté
qui ont
de
été
publication.
Pourtant arrachées, que ce soit la liberté d'association 1901, la liberté de manifestation, les grandes libertés publiques. Et des hommes qui sont pourtant aujourd'hui oubliés de l'histoire. Mais Valdez-Crousseau a été un de ces hommes-là, à la fois parce qu'il a été ministre au début de la Troisième République sur les grandes lois de liberté, et puis ensuite quand il a été lui-même président du Conseil, où il a fait progresser bon nombre de droits, et notamment pendant l'affaire Dreyfus.
Mais dans une école ou dans une famille comme la vôtre, est-ce qu'on a pu faire part aussi des fractures de la société française liées à l'histoire? Parce que, en fait, depuis la Révolution française, au moins, cette société française a été bousculée par ces fractures historiques, par ces oppositions entre révolutionnaires et contre-révolutionnaires, entre défenseurs de la République et défenseurs de la monarchie, et puis à l'intérieur de la République, entre ceux qui étaient de droite et ceux qui étaient de gauche, conservateurs et progressistes. Donc il y a aussi cette dimension extrêmement conflictuelle de l'histoire dans notre nation qui a forgé aussi l'idée nationale, François Hollande.
Oui, le conflit fait partie de notre histoire.
Il ne faut pas le refuser forcément.
Je dirais même que le conflit a construit notre nation. Je vous ai parlé de la guerre d'Algérie. Elle a été une fracture,
pas
simplement
encore,
entre
peut-être.
la métropole et l'Algérie, comme l'on disait à l'époque, mais au sein même
De la gauche
de la gauche
et de la droite.
Et de la droite. Donc ça a été une fracture parce que la SFIO de l'époque n'a pas tenu ses engagements, ça a été une fracture parce que le gaullisme est venu au pouvoir par l'affirmation de l'Algérie française, puis s'en est écarté, à juste raison. Et donc mon enfance a été, si je puis dire, considérablement troublé par la guerre d'Algérie. Et quand je me suis intéressé à cette question et que j'ai vu combien des hommes et des femmes français avaient pu lutter pour l'indépendance de l'Algérie, c'était aussi la vérification que le conflit passait, y compris au cœur même de la République. Alors, ensuite, il y a d'autres conflits qui m'ont moins marqué. Le conflit entre école privée et école publique. Moi, j'étais finalement un mélange des deux. Mes parents m'avaient mis, je n'avais pas eu droit là-dessus de dire mon mot. Mais enfin, ils m'avaient mis dans l'école privée. Puis ensuite, à partir de la troisième, j'ai heureusement gagné le lycée de la République. Mais je n'ai pas été trop affecté, donc, alors que ça a été quand même un grand conflit. Ça reste d'ailleurs, il ne suffit pas de grand-chose pour que ça ressurgisse.
On s'en souvient en 84.
Les conflits sociaux, moi je suis un adolescent de mai 68. J'ai 13 ans en mai 68. Et donc mon apprentissage de l'histoire, c'est l'apprentissage de l'actualité. C'est le choc de ce que, à un moment, des villes paisibles, j'habitais Rouen à l'époque, sont capables de s'embraser.
Et ça a même des conséquences sur votre destin personnel, puisque votre père décide de quitter Rouen à ce moment-là.
Oui, voilà, fait un choix de vie. Il était installé médecin libéral au Torino et considère qu'il faut se mettre, je ne sais pas pourquoi, à l'abri
parce
dans la capitale.
Parce qu'il a peur des chars russes.
Peut-être, qui pourtant... Non, parce qu'il craint qu'après mai 68, la médecine ne soit nationalisée. Je pense que c'était ça son fantasme. Si seulement, 40 ans après, il n'en est toujours rien. Donc voilà, il me permet, je lui en remercie, de venir à Paris, finalement de suivre des études que je n'aurais pas forcément connues si j'étais resté à Rouen. Mais voilà, le conflit, l'imprévu, le surgissement de l'événement, ça c'est l'histoire.
Il y a le surgissement de l'histoire et puis il y a aussi le rôle qu'on fait jouer aux êtres humains dans cette histoire, c'est-à-dire la façon dont on regarde ce passé. Est-ce qu'on sait par exemple que la gauche a été souvent divisée entre le rôle des masses ou le rôle des avant-gardes? Est-ce que c'est l'avant-garde qui fait l'histoire et qui donc dit aux masses d'une certaine façon quel est le sens de l'histoire? Ou est-ce qu'au contraire ce sont les masses qui conscientisent d'une certaine façon les leaders politiques et qui leur disent que c'est par là qu'il faut aller? Est-ce que vous avez été marqué par ça ou pas du tout, François Hollande, par ce débat qui est un débat interne et très long depuis au moins la Révolution française entre les forces de gauche?
Moi je n'ai jamais été tenté par les aventures de l'avant-garde. Je n'ai jamais été séduit par le communisme ou le gauchisme. Non pas que je n'avais pas de...
Oui, on dit que vous aviez quelques amitiés communistes. Même,
d'union de la gauche et de respect pour le Parti communiste, qui pour moi représentait le mouvement ouvrier et, même si c'est plus controversé, la résistance, puisque c'est quand même le parti qui a été le plus présent... en tant que tel, dans la guerre.
Vous auriez même, dit-on, défendu la logique du Parti communiste au moment où Georges Marchais donne raison à l'invasion de la
Guinée. Oui,
c'est ce que certains de vos amis ont dit.
Est rapporté. Mais je considérais qu'il y avait une mission qui pouvait être de lutter contre l'extrémisme, le fondamentalisme. Enfin, cet argument a été repris après par d'autres que par les soviétiques. Et mieux vaut ne pas aller en Afghanistan. Ça vaut pour
hier,
aujourd'hui comme pour hier, ou pour hier comme pour aujourd'hui. Enfin, les leçons d'histoire, là aussi, méritent d'être tirées. Mais ce que je rencontrais, c'était l'illusion que mai 68 d'ailleurs portait, qu'une petite avant-garde était capable de soulever les masses. Je n'ai pas non plus été tenté par la foule. La foule n'est pas le peuple. La foule peut
C'est
parfois,
quoi la différence ?
La foule peut parfois emporter par des passions, par des excès, par des facilités. Le peuple, il mérite d'être organisé, structuré. C'est ma conception de la démocratie et de la République. Le peuple, il doit être à la fois consulté, chaque fois que nécessaire, mais représenté. Je ne suis pas dans une
Pas de démocratie directe.
démocratie directe, c'est-à-dire une espèce de spontanéisme où, pour reprendre les thèses de Rousseau, où finalement chaque représentant doit être d'abord soumis aux vérifications du peuple. Non, le peuple donne mandat, et ensuite c'est au nom de ce mandat qu'il est possible d'agir. Donc je me suis toujours engagé, dans le cadre de la République, dans des partis démocratiques, pour le socialisme, parce que ça me paraissait être la voie la plus sûre pour aboutir à la conquête du pouvoir et, pour reprendre les belles distinctions de Léon Blum, à l'exercice de la responsabilité.
Alors, on a tous, dans notre enfance, une sorte de petit panthéon portatif qui est le nôtre, d'hommes et de femmes politiques, d'hommes et de femmes d'action, d'hommes et de femmes de réflexion que l'on transporte avec soi, ou de faits historiques qui, à ce moment-là, vous ont touché. Est-ce que vous en avez quelques-uns? J'ai rarement lu, voire pas lu, quoi que ce soit sur ce thème chez vous, François Hollande, c'est-à-dire de ces petits héros portatifs, ce petit autel que vous trimballeriez avec vous, de héros de l'histoire ou de moments de l'histoire qui vous servent à délibérer d'une certaine façon sur ce que vous pouvez faire, de modèle.
Je n'ai jamais eu un modèle, même si, pour rester sur l'histoire la plus récente, François Mitterrand nous a donné quelques exemples de ce que l'action politique permettait de réussir, c'est-à-dire l'alternance et avant l'alternance, la construction d'un grand parti pour permettre le changement. Donc j'ai eu pour François Mitterrand une vraie admiration dans ce qu'a été son combat d'opposant et ensuite de candidat victorieux. Même si je ne peux pas reproduire en 2012 ce qu'il a fait en 1980,
Il y a juste le prénom qui
aucune
correspond.
situation ne correspond vraiment à une autre, et les temps ont changé. Mais il n'empêche, il y a des règles qui demeurent toujours vraies. C'est la ténacité, l'obstination, la capacité de gérer son temps, de ne pas céder aux humeurs et aux modes. Et puis aussi cette façon de faire qu'avait François Mitterrand, qui était de se mettre en curiosité par rapport à la vie. Mais au-delà de ce qu'a été mon engagement
Depuis
très tôt
72,
autour de
dites-vous,
François Mitterrand,
l'admiration
même
au
si
moment du
après j'ai
programme
pu
commun.
prendre moi-même mes distances critiques par rapport à ce qu'il avait pu faire, ou à certains abandons de ce qui me paraissait pourtant des règles de vie en politique. Bref. Je ne vais pas faire, moi, à mon tour,
Dans l'inventaire.
l'inventaire. C'est des personnages mythiques. Le personnage mythique par excellence, c'est Henri IV.
Ah bon?
Oui, le personnage mythique, c'est celui de la réconciliation.
Vous êtes comme François Bayrou.
J'allais dire de la synthèse. C'est le personnage même de la synthèse. Le protestant qui devient catholique, Paris vaut bien une messe,
C'était
c'est.
le cas d'ailleurs de votre famille, d'après ce que je crois savoir
Oui,
très longtemps.
absolument.
Vous
Donc
étiez une
je pense
famille
que si je
protestante
dois
devenue catholique.
prendre un personnage dans la monarchie, ce qui pour un républicain est déjà contestable, mais
Oui, mais
enfin
en
nous
même
sommes
temps, Jules
héritiers de notre
Ferry,
histoire.
voilà, hérite de son histoire.
Nous sommes héritiers de notre histoire. Et notre histoire ne commence pas simplement le 14 juillet 1789, même si elle prend à ce moment-là un autre tour. Donc voilà, le roi de la nation, c'est Henri IV. Le roi de la réconciliation, l'édit de Nantes, la pacification. Et d'ailleurs, sa mort tragique, son assassinat, est le signe même qu'il est celui qui a voulu toute sa vie réconcilier et qui est poignardé par un fanatique. Alors ensuite, dans la République, oui, il y a des personnages qui sont présents dans mon imaginaire. Condorcet,
Le Condorcet de l'éducation.
oui, le Condorcet d'éducation, parce que il est celui qui comprend très vite que la révolution, c'est pas simplement des droits, des libertés, c'est aussi maintenant un devoir qui va être donné à la société tout entière d'éduquer le peuple. Comment le rendre souverain s'il n'est pas éclairé et qu'il s'inscrit le plus dans la tradition des Lumières. Après, Victor Hugo n'est pas simplement le grand auteur que l'on connaît, est un personnage politique de première dimension, y compris dans son évolution, dans son itinéraire du
Royaliste devenu
romantique
républicain.
royaliste qui devient le républicain engagé. Engagé, son dernier combat, ne l'oublions jamais, c'est pour obtenir l'amnistie pour les communards. Et quand il l'obtient, considère qu'il a réussi la dernière partie de sa vie. Les obsèques de Victor Hugo, c'est le rassemblement de tous les républicains. C'est la victoire de la, c'est la nouvelle victoire de la République. Bon. Alors après, il y a Clémenceau, parce que Clémenceau, c'est la capacité de rebondir dans la vie politique. Hein, c'est celui qu'on croit perdu, qui ressurgit. C'est celui qui...
c'est celui aussi qui est détesté par une partie de la gauche.
Bien sûr, parce que c'est l'homme qui brise les grèves. C'est l'homme qui arrive à mettre le doute chez les vignerons qui se révoltent, qui arrive même à subvertir leur leader. C'est le tacticien, le cynique. Hein. Mais c'est l'homme qui a une conception de la nation, une conception de la République. Les grands personnages historiques ont écrit les plus beaux textes. Les textes de Clémenceau sont admirables. Alors, comme je suis socialiste, comment ne pas évoquer Jaurès ? Mais ce qui m'intéresse chez Jaurès, c'est aussi son passage. Ce qui est intéressant dans la vie politique des hommes qui restent des référents, c'est leur évolution.
Il n'a pas été d'un bloc, lui.
Il n'était pas d'un bloc. Il commence républicain opportuniste, admirateur de Jules Ferry, et par les lieux de son engagement, de ce terrain d'élection, il rencontre le socialisme. Et s'il est aussi fort dans l'imaginaire, c'est parce que sa mort le rend héros. Le fait qu'il soit assassiné au moment de la déclaration de guerre fait que l'on peut tous se dire qu'il n'aurait pas été dans le gouvernement d'Union nationale, lui, ou de l'Union sacrée. Ensuite, bon, j'ai bien sûr regardé Léon Blum. Léon Blum, qui est un homme qui est à la fois de force et de fragilité, de force de caractère.
Ça s'entend dans sa voix, d'ailleurs.
Cette petite voix. Oui, petite voix fluette. Et en même temps, de force, parce qu'il tient. Il tient quand même. Il tient pendant un an le gouvernement du Front populaire. Il tient en ne cédant pas Munich. Il tient dans la captivité. Et en même temps,
c'est très belle lettre qu'il écrit de Buchenwald.
Oui, que sa femme a gardée, heureusement. Voilà, mes héros.
Est-ce qu'on va chercher aussi, quand on est un homme politique français, dans un autre registre, un registre géographique différent? C'est-à-dire, on pourrait se dire, on peut être admirateur, je ne sais pas, de Gandhi et de Martin Luther King. C'est-à-dire d'aller puiser pas simplement dans le registre national, mais également dans d'autres lieux géographiques dans lesquels on a vu fleurir des personnalités historiques ou politiques.
Je me suis longtemps méfié des personnages des autres lieux, comme vous dites, que l'on vénérait. Mao, malheur. Léine, Gandhi, c'est déjà plus honorable, même si c'est quand même pas du tout dans notre tradition. Ce que Gandhi a fait, c'est non seulement l'indépendance, mais c'est aussi les droits humains. Il a commencé ses engagements en Afrique du Sud, Gandhi. Mais donc j'ai beaucoup de respect pour ce personnage qui, sans armes, a réussi à déplacer finalement les frontières de l'histoire et à tenir l'indépendance des Indes. Et là aussi, son sort tragique, la fin... Nous conduit à penser qu'il y aurait quand même un malheur dans les courages politiques. Pourquoi faut-il que nos héros meurent ?
Kennedy.
Ainsi, voilà, Kennedy, Gandhi, Tjibaou, en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi faut-il qu'il y ait toujours cette mort ? Il y a Jaurès qui viennent sceller des destins. Et Martin Luther King.
Et Salvador Allende ?
Ou Salvador Allende. Alors ça m'avait beaucoup mobilisé, parce que j'étais engagé déjà politiquement. J'étais aux manifestations
en septembre 73.
Cette manifestation du septembre 73, je m'en souviens, c'était pourtant il y a 40 ans. C'est la manifestation où j'ai vu défiler François Mitterrand, Michel Rocard, Georges Marchais, toute la gauche. Parce que c'était une manifestation là aussi tragique, tragique parce qu'il se passait une répression terrible au Chili, mais parce qu'elle indiquait que finalement la gauche au pouvoir pouvait être rattrapée par la malédiction. Et comme nous battions déjà pour l'alternance, ne savions pas qu'il y aurait une élection un an plus tard en 1974 avec la mort de Georges Pompidou, mais nous mettions déjà dans le mouvement de l'alternance, ce qui arrivait au Chili nous frappait sentimentalement, humainement, mais nous frappait aussi politiquement.
On peut se demander parfois, si vous avez une formation plutôt économique, mais si l'histoire ne conduit pas souvent à la politique. Alors évidemment, vous citiez François Mitterrand, littéraire, mais pétri, féru d'histoire. Mais quand on voit des destins plus proches du vôtre, des gens que vous avez pu côtoyer, moi je pense à Louis Mexandeau, par exemple, historien, agrégé d'histoire, Jean-Yves Le Drian, agrégé d'histoire, Jean-Michel Gaillard,
oui, qui était un ami,
agrégé d'histoire,
Max Gallo,
auprès duquel j'ai travaillé. Vous avez travaillé lorsqu'il était porte-parole du gouvernement. Alors, ça m'intéresse, par exemple, de me dire, qu'est-ce qu'on apprend auprès de quelqu'un comme Max Gallo, qui se trouve pendant un an et demi, entre 83 et 84, être le porte-parole de ce gouvernement qui doit assumer la rigueur, et qui, par ailleurs, agrégé d'histoire, grand historien, qui aujourd'hui encore fait des énormes succès à partir de cet usage de l'histoire, qui est assez proche de Nicolas Sarkozy maintenant, mais qu'est-ce qu'on apprend auprès de lui de ce récit français, de cette nation française et de sa saga historique ?
J'ai appris de Max Gallo, d'abord parce que j'étais son directeur de cabinet et que nous étions dans une période très chahutée. C'est celle de 1983, 1984. La gauche était contestée. Grande manifestation de l'école privée. Grande confrontation politique entre la gauche et la droite. La rigueur que la gauche était obligée de concéder. Donc, nous étions toujours confrontés à des mouvements, à des offensives, qu'elles viennent de la rue ou qu'elles viennent de la scène politique. Avec Max Gallo, ce qui était précieux pour moi, c'était qu'il était toujours capable de trouver une analogie avec une autre période. Donc il permettait de comprendre ce que nous traversions en fonction de ce que l'histoire nous avait déjà enseigné. C'est à la fois utile et souvent abouti à des conclusions que j'appellerais de relativisme. En considérant que finalement ça s'est déjà produit, qu'il n'y a pas de surprise.
Donc, vous êtes pour la surprise.
Je pense l'événement. Que l'événement est un élément tout à fait important à comprendre, à saisir. C'est-à-dire que rien ne se passe comme il est prévu.
Pensez le neuf.
Il faut toujours à la fois prendre en compte le réel, ne jamais nous laisser justement tromper par un événement, et en même temps penser qu'il va se produire forcément des forces qui vont se mettre en œuvre, des événements qui vont surgir, qui ne permettent pas de tout anticiper et de tout programmer. Il faut être à la fois donc capable de prévoir l'essentiel et en même temps suffisamment lucide pour penser qu'il va forcément y avoir un grain de sable qui va mettre en cause cet édifice.
À propos de l'histoire, justement, un grand historien contemporain qui était encore présent parmi nous, fort heureusement, qui est Alain Corbin, répond souvent, quand on lui pose la question « Y a-t-il des leçons de l'histoire ?», il dit « La seule chose que nous apprend l'histoire, c'est de s'attendre à l'inattendu. » Vous êtes d'accord avec ça ?
Je viens d'en faire, j'espère, la démonstration. Ça ne veut pas dire qu'il faille être un pragmatique absolu. Parce que méfions-nous aussi de cette conclusion rapide qui pourrait être « Puisque l'imprévisible est la règle, en définitive, gérons le moment. » Non, il faut
préparer, être capable... Se préparer à l'imprévisible.
Être capable de voir loin... Et donc de savoir que ce que nous portons, c'est une destinée nationale qui va dépasser les épreuves et les événements. Donc il faut avoir cet horizon. Et en même temps, de comprendre que rien ne va se passer pour atteindre l'objectif de ce que nous avons pu, à un moment, prévoir.
Alors quelquefois, quand on est élu, comme vous l'avez été longtemps, donc en Corrèze, on se trouve confronté à cette difficulté d'un endroit qui a été meurtri par l'histoire. Donc député de Tulle, maire de Tulle, tout le monde se souvient du 9 juin 1944, là-bas en tout cas tout le monde se souvient, et en France on peut l'espérer aussi, 99 pendus dans ce moment terrible de la remontée de ces troupes allemandes vers la Normandie, oui. Où ils veulent essayer d'empêcher le débarquement. Comment vit-on cela ? C'est-à-dire comment vit-on ce moment où une ville... indépendamment du reste du territoire, se trouve plongé dans une sorte de stupéfaction chaque année lorsqu'on se souvient de ce 9 juin 1944, François Hollande.
Chaque année, le 9 juin, à Tulle, s'organise un défilé silencieux des survivants, des familles, mais aussi de la population, voire même maintenant d'associations qui se sont mises en solidarité par rapport à cette tragédie. Donc s'organise ce défilé qui va jusqu'au monument où les noms des suppliciés sont rappelés. Il y a eu 99 suppliciés pendus et puis 200 déportés, dont beaucoup ne sont pas revenus. Donc ces drames, cette tragédie, n'ont pas forcément une place dans notre histoire. J'allais dire, il y a eu Oradour qui a aussi tellement saisi d'horreur.
On a redécouvert Maillet récemment, donc, en Touraine.
Que chaque ville, bien sûr, frappée par ces actes de barbarie, célèbre ces événements, mais je ne suis pas sûr que la nation ait suffisamment conscience qu'il y a eu des villes de France qui ont été ainsi touchées et qui restent des villes martyrs. Vous savez, quand on accroche au balcon d'une ville 99 jeunes hommes devant la population tout entière, une ville qui est une ville joyeuse, c'est une ville ouvrière, laborieuse, mais une ville pleine d'humour, de joie, de fête, qui reste heureusement cette ville-là, mais il y a toujours ce souvenir. Et alors, il y aurait deux façons de faire, soit de l'occulter, en disant, ben, voilà, si c'est passé ça, mais maintenant, nous devons vivre, et nous vivons, et ce serait à ce moment-là le risque de l'oubli, ou alors au contraire, d'une forme de prostration de malheur que nous devrions transmettre aux générations futures, et ce serait le risque de l'enfermement dans le drame. Donc voilà, cette ville, elle a été capable d'être fidèle à ses morts, à ses suppliciés, et en même temps d'être en capacité de se relever. C'est ça l'histoire. L'histoire, elle doit nous permettre à la fois de rien oublier et en même temps de nous dire que ce qui compte, c'est la vie.
Mais alors, justement, si vous étiez président de la République, François Hollande, on est en charge pas simplement d'une mémoire locale à ce moment-là. On est en charge de la mémoire nationale et donc on se doit de faire des gestes historiques. On voit bien comment le souvenir de François Mitterrand avec Helmut Kohl en 1984 à Verdun, les souvenirs d'autres dirigeants allemands se prosternant du côté de Varsovie pour ce qu'avaient fait les Allemands dans cette région-là, ont évidemment une importance pour le futur, mais aussi pour le présent de chacune de ces nations. Est-ce que vous pensez déjà à ce type de rôle que vous pourriez jouer donc en tant que président de la République? Et quelles sont les grandes lignes de ce qui pourrait être une sorte de programme présidentiel? On parle toujours de la panthéonisation possible. On se dit, un des rôles du président, c'est d'imaginer les grands hommes ou les grandes femmes à venir, à rentrer au Panthéon. Est-ce que vous avez réfléchi dans ce sens-là, François Hollande?
D'abord, vous avez raison de rappeler que le président de la République, il est l'élu de la nation, le représentant de la nation, celle d'aujourd'hui, celle de demain qu'il doit préparer, et celle d'hier. Et donc, il doit forcément être un homme ou une femme de réconciliation, de rassemblement, d'unité, ce qui s'est sans doute un peu perdu ces dernières années. Ça n'empêche pas qu'il a sa propre identité politique, mais il est, par le suffrage, par la responsabilité, l'homme ou la femme qui va unir, qui va faire le lien entre le passé et l'avenir, le lien entre les générations, le lien entre les histoires personnelles. Nous allons avoir deux événements qui vont être très importants durant le prochain quinquennat. D'abord, immédiatement, le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie.
Vous avez fait un stage de l'ENA en Algérie, je crois.
J'ai passé 8 mois de ma vie. Et je vous ai dit combien j'avais été marqué familialement par la guerre d'Algérie. Et combien encore aujourd'hui, cette guerre reste dans les mémoires et d'autant plus présente qu'il n'y a pas eu le travail. Non pas qu'il n'y ait pas eu de travail historique. Il y a eu de grands historiens. Mon ami Benjamin Stora y a contribué, pas seulement. Puis avant lui, il y avait eu aussi des historiens.
Julien, bien d'autres.
Mais il n'y a pas eu le travail de mémoire parce qu'il était trop douloureux pour les Français d'Algérie qui étaient revenus ici vivre, qui avaient tout abandonné, tout perdu, pas simplement leurs illusions, leur patrimoine, leurs racines, et qui regardaient toujours avec beaucoup de tristesse, pour ne pas dire davantage, cette séparation. Et puis les Algériens qui vivent en France et qui sont issus de toute cette histoire Je suis allé le lendemain de ma désignation comme candidat à l'élection présidentielle dans une cérémonie qui était à Asnières par rapport à ce qui s'était passé le 17 octobre.
Hein, c'est 1961.
1961. C'est-à-dire cette répression terrible dont on ne connaît d'ailleurs toujours pas le nombre de victimes de manière exacte. Et donc on voit bien que cette histoire est lourde. Donc les Algériens vont fêter leur indépendance et nous, comment allons-nous nous y prendre? Donc le prochain président de la République aura à faire des gestes, des actes qui montreront que nos deux pays ont une histoire qui a été un moment commune, qui s'est séparée, et nous devons regarder notre passé les uns les autres et être capables de nous projeter dans l'avenir. Mais ça doit être un moment de grande réconciliation.
Oui, mais c'est difficile.
Difficile. C'est le rôle du président de la République de permettre cette réconciliation, ce regard
commun. Vous avez quelques idées sur ce qui pourrait être des gestes, justement, qui permettraient ce moment un peu particulier pour mettre fin à cette guerre de 50 ans, qui est une guerre de mémoire, mais qui est une guerre tout de même qui continue.
Et ça ne peut se faire que par le regard de l'histoire et en même temps par cette exigence de faire que les deux pays regardent l'avenir, ce qui n'est pas toujours facile.
Pour danser le tango, il faudrait deux. Donc voilà. Il faut aussi que les Algériens acceptent, le gouvernement algérien accepte aussi.
Nous savons bien quelles sont là-dessus, à la fois leurs exigences et leurs réserves. Le deuxième grand événement que nous allons avoir à célébrer au cours du prochain quinquennat, c'est le 100e anniversaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Dans un contexte qui est celui de je ne sais pas si nous y serons encore, mais d'une crise de l'Europe, du retour des nationalismes, de l'exacerbation des tensions, de la montée de l'extrémisme en Europe. Tout ce qui a pu conduire à des guerres mondiales. Nous ne sommes pas du tout là. Les guerres sont aujourd'hui monétaires, commerciales, financières, et nos adversaires s'appellent spéculation, marché, produits dérivés. Mais on voit bien que dès lors que les forces financières ne sont pas maîtrisées, elles peuvent avoir des conséquences sur des forces collectives, politiques. Donc voilà, nous aurons à faire là aussi cet accord. J'ai compris que le président de la République actuel, donc sortant, veut faire une journée sur du 11 novembre, sur le souvenir commun, la mémoire de tous les conflits. Sûrement, c'est une évolution qui peut être comprise. Mais il faudra rappeler l'origine de chaque guerre. Chaque guerre a ses causes. Et si on en oublie les racines, on ne fait pas notre travail historique et on ne fait pas notre travail de mémoire. Et le rôle du président de la République, c'est de dire voilà ce qui a produit les guerres et voilà ce qui doit être le moyen de les prévenir.
Sans vous engager sur une personnalité particulière, mais vous, comme ça, dans votre petit panthéon personnel, vous verriez qui entrer au panthéon? Une femme, un homme, un personnage, un écrivain, un homme politique ou une femme politique? Ou vous n'y avez pas encore réfléchi? Ça ne fait pas encore partie de ce programme présidentiel que vous êtes en train de composer, François Hollande?
D'abord, il faut trouver ce personnage, il en existe. Il y a une famille qui a le droit de dire si elle consent à la panthéonisation. Vous avez vu ce qu'avait souhaité la famille Césaire, vous avez vu ce que la famille Camus. Ce ne sont pas des décisions qu'il faut prendre comme ça, à la légère, non pas pour faire plaisir à une grande figure, qui d'ailleurs n'est plus là pour en éprouver la reconnaissance, mais pour se faire plaisir. Quand un président de la République propose une entrée au Panthéon, c'est souvent pour des raisons qui ne sont pas seulement de la reconnaissance historique.
Alors, vous disiez tout à l'heure, il faut préparer, quand on est un homme politique, l'avenir, s'appuyer sur le passé bien évidemment, mais le préparer. Vous parliez tout à l'heure de François Mitterrand, François Hollande. On a souvent reproché à François Mitterrand, dans son action politique, en particulier des derniers temps, après la chute du mur de Berlin, d'avoir été trop pris par l'histoire qu'il connaissait, une histoire ancienne d'une certaine façon, même si elle était relativement récente, à savoir l'histoire du 19e siècle, pour pouvoir penser justement cette nouveauté radicale qui était la fin du mur de Berlin, ou, par exemple, dans le cas rwandais, penser avec des schémas de l'époque coloniale ce qui était en train de se passer. Est-ce que vous avez réfléchi à cette dimension-là, c'est-à-dire de ne pas se laisser emprisonner par des anciennes visions de l'histoire?
Oui, chaque chef d'État ou chaque responsable public est marqué par sa propre histoire. François Mitterrand, il était un homme de la Seconde Guerre mondiale. Et ce passé lui est
Mais né tout juste après la première.
revenu. Mais un homme né tout de suite après la première. Et dans les rares conversations que j'avais eues avec François Mitterrand, c'était au moment de la Bosnie. Finalement, lui, sa référence, c'était la Première Guerre mondiale. La guerre de 14 était née de l'incapacité qu'avait eue l'Europe à maîtriser les conflits des Balkans. Donc pour lui, il y avait un risque très sérieux que la guerre s'embrase. Et notamment, ça survenait au moment même où l'Allemagne retrouvait son unité. Donc pour lui, il avait deux obsessions. Comment faire pour que la réunification allemande ne soit pas la résurgence du nationalisme allemand? Et comment faire pour que l'éclatement de la Yougoslavie ne reproduise pas ce qu'avaient été finalement les convulsions qui avaient conduit à la Première Guerre mondiale? Donc il était marqué par l'histoire. D'une certaine façon, d'ailleurs, reconnaissons-lui ce mérite. Sa connaissance de l'histoire nous avait permis d'éviter quelques décisions, à mon sens, trop rapides, notamment concernant l'ex-Yougoslavie. Et sa connaissance également de l'histoire lui avait permis de faire que la réunification allemande soit immédiatement suivie d'une unification européenne autour d'une monnaie unique dont nous voyons aujourd'hui les difficultés, alors qu'elle n'a pas de la gouvernance politique. Et il ne faut pas que cette vision de l'histoire, effectivement, soit un enfermement. Je disais tout à l'heure, évitons les raisonnements simplement analogiques. Il faut être capable de voir ce que va être le progrès, le mouvement, l'évolution. Donc il faut être capable de raisonner non pas simplement comme hier, mais comme demain.
Oui, prenons cet exemple de la Turquie, par exemple. On voit bien combien on va chercher les géographes et les historiens pour se poser la question en homme politique d'aujourd'hui ou en femme politique d'aujourd'hui de savoir si cette Turquie fait partie de l'Europe ou n'en fait pas partie historiquement pour justifier ou non l'entrée de cette Turquie dans l'Europe. Est-ce que c'est un bon raisonnement que de procéder ainsi, c'est-à-dire d'aller voir du côté de ses racines historiques pour pouvoir justifier quelque chose qui est du contemporain, François Hollande.
Alors, les géographes sont convoqués et donnent un verdict qui lui-même est connu. C'est que la Turquie fait à la fois partie de l'Europe et de l'Asie. Donc, nous ne sommes pas beaucoup avancés. Alors, si on raisonne en termes de nombre de kilomètres carrés, l'Asie l'emporte. Si on raisonne en termes d'influence économique, c'est davantage l'Europe qui devient la référence pour la Turquie. Non, la seule question qu'il faut se poser par rapport à la Turquie, c'est qu'est-ce qu'elle pourrait elle-même apporter à l'Union européenne. Si son éventuelle adhésion, qui n'est pas aujourd'hui d'actualité, conduisait à rendre encore plus difficile la gestion de l'Europe, parce que là, ça serait accueillir un pays de 70 millions d'habitants, quel serait l'avantage et pour la Turquie et pour l'Europe? Si c'est en revanche dans un cadre qui peut être finalement d'une nouvelle architecture de la construction européenne, celle à laquelle je travaille, pour moi, il y a un premier cercle qui doit être le noyau des pays fondateurs, il y a un second cercle qui est un espace politique, un espace de liberté, puis il y a un troisième cercle qui est un espace économique. Voilà, à ce moment-là, la Turquie peut trouver sa place dans le troisième cercle.
Alors, il y a un anniversaire que vous avez oublié, dans ces anniversaires qui pourraient être ceux que vous devriez célébrer en tant que président de la République, c'est 2015, la chute de l'Empire. On a l'impression que Napoléon n'a pas de place dans votre panthéon ou même dans votre toile de fond historique, François Hollande. Je me trompe?
Vous n'avez pas invité ici Dominique de Villepin, donc vous saviez les risques que vous preniez. L'Empire, c'est à la fois le premier, un élément de
Pour le
fierté.
troisième, c'était Philippe Séguin,
Oui,
mais
oui.
pour le deuxième empire, c'était le second empire, c'était Philippe Séguin.
Le Second Empire était célébré par Philippe Séguin, et le Troisième Empire, c'est celui que nous avons connu depuis maintenant près de 5 ans. C'est ce que Victor Hugo avait appelé sur le petit Napoléon. Non, je reviens au premier. C'est à la fois un sujet de fierté nationale, parce que ça a été finalement d'abord l'accomplissement de la République, ainsi que Bonaparte se présente pour terminer la Révolution et donc affirmer la République. Puis après, c'est le passage à l'Empire. Bon. Mais un empire conquérant, un empire qui se veut porteur des valeurs de liberté, un empire qui libère des peuples, bon. Mais enfin, un empire qui finit dans l'autoritarisme, dans le bâillonnement des oppositions, voire même dans l'assassinat des opposants, et y compris dans la construction d'une dynastie, en prenant la fille d'un empereur. Donc, moi, il y a à la fois un sujet de fierté et en même temps un regard sur ce que peut être la déviation, la dérive d'un système que nous avons connu, nous, en France, y compris sur le plan guerrier.
Et puis c'est le rétablissement d'esclavage. Et c'est aussi ce sur quoi certains aujourd'hui dans la société française disent on ne peut pas célébrer Napoléon.
Oui, c'est pour ça que vous avez sans doute remarqué que les boulevards et les rues de Paris, il y a les boulevards des maréchaux d'Empire, il n'y a pas un boulevard Napoléon. Il n'y a qu'une rue Bonaparte. Hein, c'est intéressant, les rues et les boulevards, toujours, enfin les noms.
Oui, parce qu'en nommant d'un personnage historique, on délimite aussi
Ce qui, ce
la
qui,
mémoire acceptable et celle qui ne l'est pas.
qui n'est pas. Donc, on a rétabli la colonne Vendôme. Très intéressant, parce que ça a été la bataille pour rétablir la colonne Vendôme, hein, pour que Louis-Philippe accepte de finalement ce qui a été le legs. Hein. Et en même temps, on n'a jamais fait place Napoléon.
Oui, et récemment, on a débaptisé la rue Richepanse, qui était un de ceux qui avait massacré aux Antilles, à Haïti, avec la fin le rétablissement de l'esclavage. Et puis de l'autre côté, on l'a remplacé par le chevalier de Saint-Georges, personnalité mulâtre de l'Ancien Régime. Donc d'une certaine façon, ça n'est jamais anodin que de nommer une rue.
Non. Alors je reviens à 1815. 1815 ne peut pas être célébré dans la mesure où c'est sans doute la fin de l'Empire, mais c'est le rétablissement de la monarchie, c'est la restauration. Enfin, vous imaginez des républicains fêter la restauration et la terreur blanche, là aussi, qui est la grande méconnue de notre histoire. Volonté d'occulter cette période. Savoir que la Terreur blanche a été aussi dramatique en termes de nombre de morts que la Terreur révolutionnaire.
Et de toute façon, en tant que président de la République, François Hollande, si vous êtes élu, vous aurez à gérer aussi cet héritage royal et royaliste, Versailles, lieu où l'actuel président se repose parfois. Versailles fait partie aussi de cet héritage qu'il faut garder pour soi lorsqu'on est président de la République.
Oui, mais là, je vais vous confier un souvenir. J'étais donc conseiller à l'Élysée en 1981. J'y suis resté jusqu'en 1983. Mon rôle n'était pas essentiel. J'étais
Aux deux rues de l'Élysée,
aux
c'est ça?
deux rues de l'Élysée. Et François Mitterrand cherchait un lieu pour accueillir déjà les chefs d'État des pays les plus riches de la planète. Ça devait être un G7. On disait ça à l'époque, c'était le G7. Et il lui avait été présenté un certain nombre de sites possibles pour l'accueil de cette grande réunion internationale. Je me rappelle le château de Chelles, notamment. Enfin, c'était en Seine-et-Marne. Et le lieu qui lui avait été présenté, j'allais dire presque pour dire que ça existait, que c'était possible, c'était Versailles. Et Mitterrand a dit, nous allons prendre Versailles. Et pourquoi fait-il ce choix? D'abord parce que il y avait sans doute plus de commodité, c'était proche de Paris, c'était simple, mais aussi pour prendre possession de ce lieu, et à la fois pour
Symbolique.
impressionner les chefs d'État, c'était Reagan et Thatcher, et je crois qu'ils l'ont été, en se disant, ce président socialiste qui nous accueille là, dans le château de Louis XIV, quand même, quel paradoxe. Et en même temps, pour dire, voilà, la République, y compris dirigée par un président socialiste, elle prend en compte toute son histoire.
D'autant plus que votre frère devait y jouer, j'imagine,
Oui,
avec son groupe,
avec son groupe, Urban Saxe.
qui était Urban Saxe à ce
Ouais,
moment-là,
c'est vrai.
puisque c'était un des moments
Voilà.
de la cérémonie liée à l'accueil de ces présidents étrangers à Versailles.
Mais je n'avais fait aucune procédure pour avoir, là, une faveur quelconque, je veux le dire à vos auditeurs.
Merci François Hollande d'avoir accepté de nous livrer ainsi donc votre imaginaire historique ainsi que d'autres leaders politiques, hommes et femmes qui donc dans toute cette série nous donnent la trame historique sur laquelle ils basent, ils fondent leur action. Merci encore.
Merci à vous de m'avoir remis dans mon histoire et dans l'histoire.
Voilà, c'était donc le deuxième volet de notre série spéciale de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'imaginaire historique des femmes et des hommes politiques français. Vous avez pu entendre Jean-François Copé hier, aujourd'hui donc François Hollande, et demain vous pourrez entendre Daniel Cohn-Bendit, Jean-Luc Mélenchon, Jean-Marie Le Pen et également Corinne Lepage. J'explique pour nos auditeurs que nous sommes tenus par des règles strictes qui sont donc demandées par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et que nous ne pouvons pas donner le même temps de parole à chacune des familles politiques qui sont représentées lors de cette présidentielle. Et chacun des temps de parole est à la hauteur, pourrait-on dire, du poids politique supposé de ces candidats. Comme d'habitude, vous pouvez réécouter cette émission et toutes les autres en allant sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez écouter l'émission pendant 1000 jours, la télécharger pendant une semaine après sa diffusion. Laissez vos commentaires et n'hésitez pas, vous l'avez fait déjà assez nombreux hier sur nos pages, donc www.franceculture.fr. Discutez avec nous également sur le groupe des Amis de la Fabrique de l'Histoire, sur un réseau social bien connu. Je vous ai posé quelques petites questions et quelques petits quiz sur ce site du groupe des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Eh bien, j'ai donné la réponse à chacune et à chacun d'entre vous sur ce site donc, et ce groupe des Amis de la Fabrique de l'Histoire sur ce réseau social bien connu. Je vous rappelle que l'ensemble, une grande partie en tous les cas, de ces entretiens de 2007 et de 2012, donc avec des femmes et des hommes politiques, sont rassemblés dans un ouvrage donc, qui paraîtra après-demain dans la nouvelle collection de la Fabrique de l'Histoire aux éditions Bayard France Culture et qui s'intitule « Que doivent-ils à l'histoire ?», un ouvrage préfacé par l'historien Christophe Auchasson.